Bonsoir à tous. Le père Michel Fédoux, le père Bernard Potier et moi-même, Quentin Lamy, souhaitons la bienvenue à vous tous qui êtes présents ce soir aux facultés Loyola, ainsi qu'à tous ceux très nombreux qui suivent cette soirée en ligne. Le thème qui nous rassemble ce soir est le Concile de Nicée au regard de la théologie contemporaine. Nous parlons ici du premier concile de Nicée, celui qui s'est tenu en 325 et dont nous fêtons cette année le 1700e anniversaire. À dire vrai, nos deux orateurs de ce soir ne vont pas parler directement du concile de Nicée, mais plutôt de l'interprétation qui a été faite de ce concile par des penseurs récents. Ils nous présenteront quatre points de vue contemporains sur ce concile, respectivement celui d'Aloïs Grillmayer, de Jaroslav Pelikan, de Joseph Moin et de André de Halleux. Avant de leur donner la parole à propos de ces quatre interprètes du concile de Nicée, je vais moi-même vous fournir quelques repères à propos de ce concile. Le concile de Nicée est le premier concile écuménique, c'est-à-dire la première assemblée réunissant des évêques du monde entier. Oikoumene en grec signifie la totalité de la terre habitée. Le dernier concile écuménique en date, bien sûr, est celui de Vatican II. Avant Nicée, il y a eu d'autres réunions d'évêques. Le concile de Jérusalem, par exemple, qui est raconté dans les Actes des Apôtres au chapitre 15, et puis de nombreux conciles et synodes locaux, mais aucun n'a eu l'ampleur du concile de Nicée, qui a réuni à peu près 300 évêques de tout l'Empire romain sur les 1800 évêques qu'on comptait à l'époque. Cette vaste convocation a été permise, entre autres, par la paix donnée au christianisme. La dernière des persécutions antichrétiennes, celle initiée par Dioclétien, s'est éteinte à peu près au moment où Constantin a signé l'édit de Milan en 313. Et 12 ans plus tard, c'est ce même empereur Constantin qui appelle les évêques à se réunir à Nicée. Pour quelle raison ? Pour régler le problème de l'arianisme qui troublait le christianisme et l'Empire romain. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit de la doctrine propagée par Arius, un prêtre de la ville d'Alexandrie en Égypte. Arius enseigne qu'il y a eu un temps où le Fils n'était pas. Un temps où le Fils, nous parlons de la deuxième personne de la Trinité, un temps où il n'existait pas. Autrement dit, la vie de Dieu aurait commencé avec le Père seul, et ensuite serait apparu le Fils. Cela implique que seul le Père est éternel et immuable. Le Fils, lui, a été, on peut dire, tiré du néant un beau jour, ce qui le classe en fait parmi les créatures. Alors pour Arius, il est certes une créature supérieure à nous. En effet, pour Arius, le Père s'est servi du Fils pour créer le monde, et à ce titre, le Fils est au-dessus de nous tous, il est la sagesse de Dieu. Cependant, il est la sagesse créée de Dieu. Il n'est pas éternel et immuable comme le Père. En résumé, Arius admet bien que le Fils est supérieur à tous les hommes, qu'il est au-dessus de toutes les créatures, mais il refuse de faire du Fils l'égal du Père et de lui reconnaître la plénitude de la divinité. Quant au Saint-Esprit, Arius en parle très peu, et il semble le considérer également comme une créature inférieure au Père. Toute cette doctrine, l'arianisme, agite beaucoup la partie orientale de l'Empire romain. On voit se multiplier les écrits de controverse entre les partisans et les détracteurs d'Arius. Et comme la querelle ne s'apaise pas, Constantin prend les grands moyens et réunit un grand nombre d'évêques à Nicée. Ces évêques sont presque tous orientaux. L'évêque de Rome, le pape Sylvestre, se fait simplement représenter par deux délégués. L'évêque d'Alexandrie se fait accompagner par son secrétaire, un jeune diacre, Athanase. Et cet Athanase, saint Athanase d'Alexandrie, est un théologien brillant. Même s'il ne participe pas directement au débat, il prodigue des conseils à son évêque et il l'aide, on pourrait dire en coulisses, à formuler les raisons de rejeter l'arianisme. Et les évêques s'accordent finalement pour réfuter Arius et rédigent une profession de foi qui n'est autre que le credo de Nicée pour clarifier la relation entre le Père et le Fils. Ce credo de Nicée, qui a été complété en 381 à Constantinople pour devenir le symbole de Nicée-Constantinople que nous connaissons bien, puisque nous le récitons souvent à la messe, ce credo affirme que le Fils est, je cite, vous l'avez d'ailleurs sur vos feuilles, « vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non pas créé, consubstantiel au Père ». Et cela exprime, contre l'arianisme, le fait que le Christ n'est pas une créature, mais vraiment Dieu à l'égal du Père. Le mot-clé dans cette phrase est « consubstantiel », qui en grec se dit « Homo ousios ». Ce n'est pas un mot qui vient des Écritures, c'est un mot qui vient, peut-on dire, de la philosophie. Il signifie que le Père et le Fils ont la même substance divine. Et quand je dis la même, je ne veux pas dire que le Père a sa substance divine, que le Fils a sa substance divine, et que toutes les deux sont pareilles, sont les mêmes au sens où elles se ressemblent. Ce n'est pas ça que ce mot veut dire. Il veut dire que le Père et le Fils ont la même substance divine, au sens où il n'y a qu'une substance divine, qui est à la fois celle du Père et du Fils. Et c'est la raison pour laquelle la traduction de ce passage dans la liturgie a été récemment modifiée. Autrefois, dans le credo, nous disions, il y a quelques années, que le Fils était de même nature que le Père. Et cela était un petit peu ambigu, cela pouvait laisser entendre que le Fils et le Père avaient chacun leur nature divine, l'une étant semblable à l'autre. Or, cela n'est pas juste, la nouvelle traduction utilise le mot consubstantiel pour traduire plus exactement homo ousios et signifier qu'il y a une unique substance divine commune au Père et au Fils. Voilà, je n'en dirai pas tellement plus sur ce concile de Nicée. Il y aurait bien sûr davantage à dire, juste un petit point en passant. C'est ce concile qui a réglé la question de la date de Pâques qui divisait à l'époque les églises. On hésitait à fixer la date de Pâques selon le compute juif, comme on le faisait en Syrie, en Mésopotamie et en Cilicie, ou bien à fixer cette date de Pâques selon le compute d'Alexandrie. Et finalement, on a décidé que toutes les églises se conformeraient à l'usage d'Alexandrie et de Rome. Vous pouvez presque entendre un écho de cette décision dans les réflexions actuelles pour harmoniser la date de Pâques entre le monde catholique et le monde orthodoxe. Voilà, j'espère que ces quelques remarques introductives vous aideront à bien comprendre les interprétations contemporaines qui vont être présentées ce soir. Voilà comment se déroulera notre soirée. Le père Fédou va présenter la lecture du concile de Nicée par Grillmayer, et puis le père Potier présentera celle de Pélican. Ensuite, le père Fédou exposera l'interprétation de Moins, et le père Potier celle de Dehaleux. Et après ces quatre prises de parole, viendra un temps d'échange avec nos deux intervenants. Si donc des questions vous viennent durant leur exposé, surtout notez-les pour pouvoir les poser en fin de soirée. Et je le dis spécialement à l'intention de ceux qui sont sur Zoom, vous pouvez écrire vos questions dans le chat pour qu'elles puissent être posées également dans la salle en fin de soirée. Le père Fédou, auquel je vais céder la parole dans un instant, Et jésuite, il est professeur émérite de patristique et de théologie dogmatique aux facultés Loyola Paris, dans cette maison. Il travaille notamment dans les champs de la christologie et de la théologie trinitaire. Il est engagé dans le dialogue écuménique, puisqu'il est membre du groupe des Dômes qui rassemble catholiques et protestants, et membre du comité français de dialogue entre catholiques et orthodoxes. Il est également co-titulaire de la chaire de théologie écuménique aux facultés Loyola Paris. Il est l'auteur de nombreux livres et articles, notamment en patristique sur Origène et en christologie. Michel, nous vous écoutons.
Merci beaucoup Quentin et bonsoir à tous, à toutes. Je vais donc vous présenter la lecture du symbole de foi de Nicée par le théologien allemand Alois Grillmayer. Alois Grillmayer, né en 1910, décédé en 1998. Il était jésuite, professeur de théologie, d'abord à Poulard, près de Munich, puis à Francfort am Main, dans l'institution jésuite Saint-Georgen. Alois Grillmayer a produit un ouvrage fondamental en plusieurs volumes, un ouvrage qui s'intitule « Le Christ dans la tradition chrétienne ». Et dans le premier de ces volumes, il consacre tout un chapitre à Arius et à l'arianisme, puis un autre chapitre au Concile de Nicée. Comme vous voyez par le document que vous avez sous les yeux, je voudrais d'abord dire rapidement comment Grillmayer présente la position d'Arius, puis je dirais comment il présente la réponse du Concile de Nicée, et je terminerai en soulignant l'enjeu que présente l'usage du mot homoousios aux yeux de Grillmayer dans le contexte des débats sur l'hellénisation du christianisme. Quelques mots d'abord sur la manière dont Grillmayer comprend la position de ce prêtre d'Alexandrie, Arius. À ses yeux, la position d'Arius présuppose à la fois une certaine image de Dieu et une certaine compréhension du Christ. D'abord, une certaine image de Dieu. Avant Arius, dans la première moitié du IIIe siècle, le chrétien Origène, qui avait passé toute la première partie de sa vie à Alexandrie, en Égypte, Origène considérait le Fils comme subordonné au Père, mais il ne le considérait pas pour autant comme une créature. Par contre, pour Arius, dans les années 317-318 environ, seul le Père est Dieu au sens strict. Le Fils et l'Esprit appartiennent, par leur grade inférieur, comme dit Grillmayer, à la sphère des créatures. Certes, Grillmayer souligne que pour Arius, le Fils peut être qualifié comme Dieu, mais s'il est qualifié comme Dieu, c'est seulement par grâce. La position d'Arius, comme le remarque Grillmayer, est en fait assez apparentée à la position qui était alors tenue par des penseurs du moyen platonisme ou du néoplatonisme. Pour ceci, en effet, il y avait une monade suprême, il l'appelait le premier Dieu, ou le Dieu suprême, ou encore l'un, Plotin. Il y avait donc une monade suprême, et au-dessous de cette monade suprême, des hypostases, telles que l'intelligence ou l'âme, mais qui étaient vraiment inférieures. Donc, une certaine image de Dieu pour Arius. D'autre part, pour Arius aussi, une certaine compréhension du Christ. Arius était d'Alexandrie, et dans la tradition d'Alexandrie, à laquelle il appartenait, on insistait beaucoup sur l'union du Verbe de Dieu et de la chair. Au nom même, d'ailleurs, du prologue de l'Évangile de Jean, le Verbe s'est fait chair. Union du Verbe de Dieu et de la chair. Or, le raisonnement d'Arius et de ses partisans semble avoir été le suivant. Si le Logos, puisqu'il parlait grec, si le Logos, ou disons si le Verbe de Dieu est devenu chair, s'il s'est fait réellement chair, et s'il a même connu des souffrances au point d'être crucifié, c'est qu'il ne peut pas être vraiment Dieu. Et par voie de conséquence, il est une créature. Certes, supérieure aux autres créatures, mais néanmoins une créature. Au fond, pour Grillmayer, la nature essentielle, substantielle, de l'union du Verbe fait chair sert à Arius d'argument contre la divinité du Verbe de Dieu. Cela posé, Alois Greenmayer s'efforce de préciser la réponse donnée par le Concile de Nicée en 325 dans son fameux symbole de foi. En convoquant le Concile de Nicée, Constantin, l'empereur, se sentait, selon Greenmayer, comme un instrument de Dieu. Mais contrairement à l'image qui a été donnée par la suite de Constantin, et selon laquelle Constantin aurait tenu en quelque sorte la place dominante, eh bien, Constantin, en réalité, n'a jamais prétendu avoir présidé lui-même le concile. Les décisions ont été préparées par les évêques eux-mêmes, les évêques qui participaient à ce concile. Par contre, selon Greenmayer, l'empereur Constantin jugeait qu'il lui appartenait, à lui comme empereur, de veiller sur les décisions qui étaient prises par les évêques. Greenmayer pense en tout cas que les énoncés en matière de foi n'ont pas été influencés par l'empereur Constantin. D'ailleurs, je cite Greenmayer, « Constantin n'était pas capable intellectuellement de maîtriser les problèmes abordés à Nicée. » Qu'en est-il à présent de la foi elle-même, la foi qui est énoncée, formulée par le Concile de Nicée? En fait, nous savons aujourd'hui, et Greenmayer l'enregistre déjà dans son ouvrage, que ce Concile de Nicée a largement repris des énoncés qui avaient déjà été formulés dans les décennies antérieures, notamment les énoncés d'un certain nombre de symboles de foi de l'église de Césarée, symboles de foi de l'église de Jérusalem, ou d'autres encore. Mais le Concile de Nicée, justement, ne s'est pas contenté de reprendre ces formules de foi ou ces symboles de foi qui existaient dès le deuxième ou troisième siècle, mais il a ajouté une réponse spécifique à Arius en affirmant la vraie divinité du Fils. La vraie divinité du Fils. Et Greenmayer résume ainsi l'apport du symbole de Nicée en quatre points. Le Fils est engendré, non pas créé. Il est engendré de la substance du Père. Il est vrai Dieu du vrai Dieu, c'est-à-dire vrai Dieu né du vrai Dieu. Et il est consubstantiel au Père, le fameux adjectif grec homoousios. Ce dernier mot, homoousios, consubstantiel, allait susciter beaucoup de remous, parce que, justement, comme l'a rappelé Cantanami, c'était un mot qui ne se trouvait pas dans les Écritures, c'était un mot qui était emprunté à la langue philosophique des Grecs. Mais Greenmayer écrit, à propos de ce terme consubstantiel, je cite, « Il faut avant tout souligner que les pères de Nicée n'ont pas hellénisé le concept de Dieu propre à la révélation et au kérigme de l'Église, en employant le mot homoousios. Pour eux, donc pour les évêques de Nicée, il s'agissait bien plus d'une explication des énoncés sur le Fils contenue dans les Saintes Écritures. La formule de Nicée signifiait en tout cas une nette prise de position sur ce qu'on appelle le monothéisme chrétien, à la fois par rapport au judaïsme et par rapport à la conception de Dieu que véhiculait le moyen platonisme ou le néoplatonisme. Au fond, pour Greenmayer, la pointe essentielle du Concile de Nicée, c'est de souligner que le Fils n'est pas une simple créature, qu'il n'est pas non plus une simple émanation de la divinité, comme l'est par exemple l'intelligence ou l'âme chez Plotin, ou plus largement dans le moyen platonisme ou dans le néoplatonisme. Le Fils est radicalement uni à Dieu. Je cite à nouveau Greenmayer, les pères de Nicée eurent le courage de maintenir avec toute sa force la tradition biblique et ecclésiale du Fils de Dieu, et cela en partie à l'aide de termes non bibliques. Alors bien sûr, le Concile ne s'est pas préoccupé d'expliquer philosophiquement comment il peut y avoir une filiation en Dieu, alors même qu'il y a un seul Dieu. La préoccupation du Concile de Nicée a été avant tout celle de préserver le kérigme, de préserver le cœur même de la prédication chrétienne, conformément à la tradition. Des écrits de pères de l'Église, comme Athanase, aident en tout cas à comprendre le sens de ce mot homoousios, consubstantiel. Le mot signifie fondamentalement que le Fils de Dieu n'est pas seulement semblable au Père, mais qu'il est son égal. Voilà, ça me conduit à revenir très brièvement, une petite parenthèse, sur la raison pour laquelle le Missel romain réintroduit le terme consubstantiel. C'est intéressant de savoir que lorsque l'expression « de même nature que le Père » a été introduite dans le Missel juste après le Concile Vatican II, en 1965, un certain nombre de penseurs, philosophes ou théologiens avaient déjà attiré l'attention sur le problème que cela posait. Par exemple, Yves Congar ou Henri de Lubac, qui disaient « Deux hommes distincts sont de même nature, mais ils ne sont pas pour autant un seul et unique homme. » Et le philosophe Jacques Maritain avait eu cette formule, on était en 1965, « Je suis de même nature que Monsieur Pompidou, je ne le suis pas consubstantiel. » Alors, naturellement, le mot consubstantiel est un mot difficile, on est tous conscients, mais l'enjeu, c'est de dire que le Fils n'est pas seulement semblable au Père, mais qu'il est un seul être avec le Père. Je reprends ici une traduction qui avait été proposée par la commission œcuménique chargée de donner une traduction œcuménique, justement, du symbole de Nicée-Constantinople. Un seul être avec le Père. Alors, j'en viens à un dernier point. L'enjeu du mot « homoousios », selon Grillmayer, dans le contexte des débats sur l'hellénisation du christianisme. Ces débats sont notamment liés à la thèse qui avait été soutenue par l'historien des dogmes protestant Adolf von Harnack vers la fin du XIXe siècle. Pour Harnack, le christianisme, en recourant à des mots tels que « homoousios », consubstantiel, se serait hellénisé et aurait ainsi rompu avec le langage et avec les schèmes de pensée dans lesquels s'était exprimée la révélation chrétienne aux origines. Cette thèse fameuse de Harnack a été reprise depuis lors par certains penseurs, en particulier dans le cas du catholicisme, elle a été reprise par le théologien Hans Küng dans son livre « Être chrétien » dans les années 1970. Or, Alois Grillmayer a répondu directement à cette thèse, cela dans un livre dont l'original allemand est paru en 1976, un article intitulé « De Jésus de Nazareth dans l'ombre du Fils de Dieu au Christ ». En fait, Grillmayer renverse l'objection qui remonte à Harnack. En réalité, dit-il, puisque pour les penseurs du moyen ou du néoplatonisme, il était impensable de penser le Verbe ou l'Esprit comme égaux au Dieu suprême, parce qu'à leurs yeux, ça ne respectait pas la transcendance absolue de la monade du premier Dieu, ce sont plutôt les pères de Nicée, les évêques de Nicée, selon Grillmayer, qui, au nom même de la révélation chrétienne, ont refusé cette conception de la philosophie du moyen platonisme ou du néoplatonisme. Grillmayer l'avait déjà écrit dans la première édition de son ouvrage « Le Christ dans la tradition chrétienne », où il disait ceci « Après un examen plus serré, les hérésies christologiques se révèlent comme un compromis entre le message originel de la Bible et la compréhension qu'en ont eu l'hellénisme et le paganisme. C'est là que se situe la véritable hellénisation du christianisme. Les formules de l'Église, que ce soit l'homoousios de Nicée ou la définition de Calcédoine, représentent la lectio difficilior de l'Évangile et préservent l'exigence de la foi et le rocher de scandale que le Christ plaça devant les hommes. C'est un signe qu'elle continue de transmettre le message original de Jésus. » Et Grillmayer a repris cette thèse dans le livre paru en 1976 auquel je faisais allusion à l'instant. Il dit ceci, je cite, « Il faut dire sans ambages que Nicée n'est pas l'hellénisation, mais la déshellénisation ou la libération de l'image chrétienne de Dieu hors de l'impasse et des divisions où l'entraînait l'hellénisme. » Et il a cette formule fameuse, « Ce ne sont pas les Grecs qui ont fait Nicée, c'est Nicée qui a surmonté les philosophes grecs. » Certes, pourrait-on dire, il y a bien eu tout de même hellénisation quant à la forme. Homoousios est bien un mot grec. Et Nicée a repris le concept grec d'ousia, substance. Mais Grillmayer veut dire que l'usage de ces termes est justement ce qui a permis de dire en langue grecque la nouveauté de la révélation chrétienne par rapport au moyen ou au néoplatonisme. À savoir que le Verbe de Dieu n'est pas simplement une hypostase émanant du premier Dieu, mais qu'il est radicalement uni à Dieu le Père. Je conclus, les pages que Grillmayer a consacrées au symbole de Nicée sont, à mon avis, remarquables à tous égards. Non seulement Grillmayer donne une interprétation très juste de ce que Nicée a voulu dire dans la situation de la crise arienne, mais sa réflexion sur l'usage des mots substance et consubstantiel est une belle réponse au grief récurrent selon lequel le Concile aurait opéré une hellénisation indue du langage chrétien. J'ajouterai pour finir que cette réponse a des enjeux qui, aujourd'hui, débordent de loin la seule question du rapport à l'hellénisme. Si nous sommes de plus en plus conscients des tâches d'inculturation qui incombent aux théologies chrétiennes dans les divers continents, en particulier dans le continent asiatique, dont les langues sont si différentes des nôtres, alors nous pouvons reconnaître dans le langage nicéen de l'homoousios comme un modèle d'inculturation, non pas certes au sens où les théologies d'Asie pourraient transposer immédiatement dans leur langue des mots tels que substance ou consubstantiel, mais au sens où elles sont appelées elles-mêmes à puiser dans leur propre tradition des images ou des concepts susceptibles d'exprimer la relation du Fils de Dieu avec son Père, pourvu, bien sûr, que ces images ou ces concepts respectent précisément la visée fondamentale qui était celle du Concile de Nicée.
Un très grand merci, Michel, pour cette première présentation. Nous nous tournons maintenant vers la deuxième interprétation du Concile de Nicée de notre soirée avec le père Bernard Potier. Il est jésuite belge, licencié en psychologie et en philosophie, docteur en théologie de Strasbourg avec un travail sur Grégoire de Nice. Il a enseigné une trentaine d'années à la faculté de théologie des jésuites à Bruxelles. Il a été 20 ans curé d'une paroisse portugaise à Bruxelles. Il est aussi membre de la Commission théologique internationale à Rome, avec un premier mandat de 2014 à 2019 et un second mandat commencé en 2021 qui s'achèvera en 2026. Il est également membre de la première commission pontificale sur le diaconat féminin qui s'est réunie de 2016 à 2018. Pour ceux que cela intéresse, le père Potier a même publié un livre sur le diaconat féminin. Il enseigne actuellement aux facultés Loyola Paris. Bernard, nous vous écoutons.
Bonsoir à tous et à toutes. Je vais vous parler de Yaroslav Pelikan. Vous avez les dates de sa naissance et de sa mort. Il est né dans l'Ohio, donc aux États-Unis, d'un père slovaque et d'une mère serbe. Il a été professeur toute sa vie d'histoire du christianisme à l'université de Yale. C'est un spécialiste en théologie chrétienne, en histoire intellectuelle du Moyen-Âge. Son père était pasteur luthérien et son grand-père, paternel, évêque de l'église luthérienne slovaque. Il fut lui-même donc luthérien la majeure partie de sa vie, mais il se convertit avec sa femme Sylvia à l'église orthodoxe à l'âge de 74 ans. Il aimait affirmer qu'en fait il ne s'était pas converti, mais qu'il avait creusé et épluché toutes les couches de sa propre foi pour retrouver, eh bien, vraiment les sources de sa foi luthérienne. Il a occupé de nombreux postes importants dans la vie intellectuelle américaine. Il a été par exemple rédacteur en chef de la section religion de l'Encyclopédia Britannica. En 2004, à l'âge de 81 ans donc, il a reçu un prix John Kluge Prize, un honneur qu'il partageait avec le philosophe Paul Ricoeur. On lui offrit donc une somme de $500,000 qu'il transféra au séminaire Saint-Vladimir orthodoxe des États-Unis. Lors d'une cérémonie à son décès, beaucoup ont pris part avec de grands discours et on a même entendu une prestation de violoncelle de Yo-Yo Ma, que vous connaissez peut-être. Voilà, alors vous avez là le titre de l'ouvrage que j'ai examiné et où il parle de Nicée. Le christianisme a donc toujours affirmé son caractère de religion du salut. Si le Christ n'est pas Dieu, l'homme n'est pas sauvé. Un homme ne peut en sauver un autre, a fortiori il ne peut sauver l'humanité. Cela entraîne donc une idée précise de qui est le Christ. Cependant, la ligne de démarcation, dit-il, entre l'orthodoxie et l'hérésie ne doit pas être tracée prématurément ni trop précisément. En effet, la double proclamation, celle du Christ comme Dieu et celle du Christ comme homme, exige une clarification du rapport entre la divinité du Christ et son existence terrestre, mais aussi entre la divinité du Christ et la divinité du Père. Les chrétiens ont fourni d'énormes efforts pour clarifier cette foi, en cherchant bien sûr d'abord dans un fondement biblique, mais aussi en réfléchissant philosophiquement et théologiquement sur la divinité donc du Christ. Alors, voilà, Yaroslav Pelikan dit que le Concile de Nicée arrive à un credo, bien sûr, mais qu'il a été précédé par beaucoup de travail, beaucoup de textes qui, plus ou moins, essayent tous d'exprimer la même vérité. Mais ces textes, eh bien, progressent dans l'expression théologique, dans la précision de la pensée. Et tous ces textes qui ont précédé Nicée, dit-il, on peut les regrouper sous quatre têtes de chapitre, ceux qui parlent plutôt d'adoption, ceux qui parlent d'identification, de distinction ou de dérivation. Il s'agit donc, à partir de l'événement Jésus-Christ et la foi insufflée dans l'Église par l'Esprit-Saint, de comprendre ce que vivent les chrétiens, ce que nous vivons, ce que vivaient, eh bien, tous ceux qui nous ont précédés. Pour cela, les chrétiens relisent l'Écriture, Ancien et Nouveau Testament. Ils y découvrent des formules qui permettent d'expliquer cet événement Jésus-Christ. Mais toutes ces formules bibliques accentuent souvent tel ou tel aspect, et ces aspects ne sont pas toujours immédiatement compatibles entre eux, du moins au point où en est arrivée la théologie à tel moment de la réflexion. Pelikan donc retrace toute cette histoire qui a précédé, en montrant que certains écrivains et penseurs ont des formules insuffisantes, bien sûr, que d'autres contestent, que d'autres réfutent, que d'autres améliorent, mais les uns comme les autres, finalement, aussi bien les hérétiques que ceux qu'on considère comme orthodoxes, contribuent progressivement à préciser la foi, à forger tout un vocabulaire théologique qui sera finalement à même d'expliciter, eh bien, la divinité du Christ dans ce fameux terme de le homoousios consubstantiel. Je vais parcourir ces quatre groupes de textes en faisant quelques réflexions que Pelikan souligne. Je le parcourrai, ce groupe de quatre textes, eh bien, deux fois. Une première fois pour présenter un petit peu ces textes, ce qu'ils supposent, et une deuxième fois pour exemplifier avec quelques auteurs ou quelques citations. L'adoptionnisme, donc, voilà un premier groupe de textes, l'adoptionnisme, ben, prétend que Jésus est un homme qui, à un moment donné, au baptême, à la résurrection, a été adopté par Dieu, élevé à une condition supérieure pour réaliser le salut des hommes, mais sans jamais devenir Dieu. Il y a pourtant plusieurs manières de formuler cet adoptionnisme, et un certain Paul de Samosate, dont je vais vous parler plusieurs fois, vers 260-270, il était évêque à Samosate, il est adoptionniste et il prononce le mot de homoousios à propos du Christ, mais nous allons voir dans quel contexte. Il l'utilise de manière hérétique, pourquoi ? Parce qu'il sera condamné par un concile en 268. Eh bien, il l'utilise en disant ceci. Ce qui est homoousios, c'est l'énergie divine qui sort du Père et qui vient adopter le Fils. Cette énergie est de niveau divin, cette énergie est homoousios au Père. Mais l'homme Jésus qui est ainsi adopté, lui n'est pas homoousios. C'est l'énergie qui le prend, disons, hein, et qui l'élève à cette condition de sauveur qui est homoousios. Ce terme d'homoousios était déjà ancien, c'est pas lui qui l'a inventé. Les Valentiniens, qui sont des spéculatifs extrêmement abondants et prolixes, utilisaient cela dans leurs spéculations gnostiques. Tertullien et Irénée le savaient bien. Ils ont déjà beaucoup écrit pour essayer de contrecarrer ces spéculations, mais ils ne s'attaquaient pas au mot homoousios, ils s'attaquaient à tout le système qui était occupé à faire dévier la foi chrétienne. Le second groupe de textes, je reviendrai après sur quelques exemples qui sont déjà sur votre feuille, le second groupe de textes cherche à identifier le Père et le Fils. Ça regroupe aussi des pensées assez diverses qu'on appellera plus tard monarchianisme, sabellianisme, modalisme. Ce qui est vrai dans cette position où on identifie le Père et le Fils, c'est que le Fils est donc reconnu comme Dieu, mais pas différent du Père. Il n'est qu'un mode du Père. Dans la première position, la position adoptionniste, dit Pélican, il y a vraiment hérésie. Dans la position d'identification du Père et du Fils, comme étant le seul et même Dieu et la même personne même, il y a inintelligence, il n'y a pas assez de précision, de pénétration. Mais donc l'affirmation centrale que Jésus est le Fils de Dieu est exacte. Il est Dieu. Le troisième groupe souligne la distinction entre le Père et le Fils. Là aussi, il y a quelque chose de vrai qui est énoncé. Il y a distinction. Mais parfois, cette distinction est marquée, soulignée de manière excessive. Il ne faut pas que cette distinction, sépare le Père du Fils. Et progressivement, un quatrième groupe de textes, dans la tradition donc, se dégage et l'emportera. C'est les textes de dérivation. Qui combine finalement le groupe 2 et le groupe 3 et qui exclut le groupe 1. Ces textes de dérivation finiront par se concentrer sur deux formules, celle du Christ défini comme le Fils de Dieu le Père et celle du Christ défini comme le Logos divin, le Verbe, la parole de Dieu. Parole qui est forcément rattachée à celui qui l'énonce. Le titre de Logos en particulier, qui a été découvert progressivement, mais qui était déjà bien sûr dans Jean 1, dans le prologue de Jean, ce terme de Logos satisfait les requêtes de l'Ancien et du Nouveau Testament. De même que certaines requêtes de la philosophie, si on veut, et de la théologie. Reprenons ces quatre groupes de textes. Selon Arnac, dont Michel a déjà parlé, un auteur qui s'appelle Hermas et qui a écrit Le Pasteur, serait adoptionniste. Pélican commente, l'idée de Arnac sur la théologie adoptionniste du pasteur est difficile à prouver autant qu'à réfuter. À cause du langage confus du livre, des problèmes littéraires que posent son origine et sa composition. Chez Paul de Samosate, nous avons un adoptionniste, qui est aussi un monarchien. Pélican écrit ceci à propos de Paul de Samosate. Bien qu'il paraisse impossible de reconstruire son enseignement à partir des fragments qui subsistent, il semble effectivement n'avoir donné à Jésus le nom de Christ qu'après son baptême, lors duquel le Logos alla se loger dans l'homme Jésus par l'action du Saint-Esprit qui lui était conférée. Comme évêque, Paul de Samosate proscrivait les psaumes adressés à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que le titre de Seigneur est un titre divin. Donc en priant les psaumes, on ne peut pas dire notre Seigneur Jésus-Christ. L'union entre Jésus et le Logos n'était pas une union ontologique, mais une union analogue à celle qui unit le chrétien et l'homme intérieur, ou les prophètes de l'Ancien Testament et l'Esprit qui les inspirait. Paul de Samosate, donc, fut condamné par un concile à Antioche, en 268. Il était partisan d'un adoptionnisme plus évolué qui tenait donc compte déjà de la théologie du Logos, élaborée entre autres par Origène. Mais donc, comme je l'ai déjà dit et je le répète, pour lui, le Logos n'était pas une personne. C'est là le problème. C'était un Logos homoousios à Dieu, mais c'était un Logos qui n'était ni personne ni substance, mais une dynamis, une énergie, une faculté opérative de Dieu qui lui était consubstantielle, c'est-à-dire homogène, du même niveau ontologique que Dieu, et qui vint s'établir dans l'homme Jésus comme dans un temple. Mais il s'agit d'une union morale, extrinsèque, non pas ontologique. Et c'est pourquoi il a été condamné, finalement non pas à cause de l'homoousios, mais à cause de l'idée que l'homoousios est appliqué à l'énergie. Les partisans de l'identification entre le Père et le Fils seraient par exemple Ignace d'Antioche dans certaines de ses formules, pas dans toutes, dans certaines de ses formules. En tout cas, Méliton de Sardes, Sabellius, Noé, Praxéas, Priscillien, tous ces gens-là sont des gens qu'on peut dire du groupe de l'identification entre le Père et le Fils, des modalistes si on veut. Jésus n'est que une apparition du Père. Ceux-ci sont contestés, discutés par les auteurs plus orthodoxes que sont Hippolyte, Tertullien, Épiphane, le pseudo-Athanase. Voici une formule, par exemple, de Militon de Sardes. Vous voyez, elle est là. Lui qui est impassible souffre, donc Dieu, le Père. Lui qui est impassible souffre et n'en tire pas vengeance. Lui qui est immortel meurt et ne répond pas un mot. Ce genre de formule est soutenu par ce que Bousset a appelé, dit Pélican, la théologie hymnologique de l'Assemblée, dont la caractéristique est de se délecter de la contradiction. Mais je rappelle que dans cette formule, il y a quelque chose de vrai. Le Fils est reconnu comme Dieu, mais il n'est pas assez différencié. Donc cette position n'est pas hérétique, selon Pélican, elle n'est pas suffisamment intelligente, pas assez suffisamment subtile. Illustrons maintenant la thèse des partisans de la distinction entre le Père et le Fils. Eh bien, vous avez là le psaume 110 qui a été commenté à l'envi par toutes sortes de pères de l'Église, « Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, Neum Adonai, l'Adonai, chef Limini, siège à ma droite. » Ce psaume a été récité quotidiennement aux vêpres dans le bréviaire romain avant Vatican II. Ce verset est d'ailleurs cité et commenté par Jésus lui-même dans les synoptiques, en Matthieu, en Marc, en Luc. En Marc, nous avons « Comment les scribes peuvent-ils dire que le Christ est fils de David ?» C'est David lui-même qui a dit « Par l'Esprit Saint, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite. » Le terme « Seigneur » est un terme divin. Donc le Seigneur a dit à mon Seigneur. Il faut distinguer le Père et le Fils. Pour Justin, commente Pélican, il devait donc y avoir quelques distinctions entre le Père et Seigneur de l'univers et le Seigneur qui était le Christ. Ou bien entre le Seigneur qui recevait une mission et le Seigneur qui reste dans les cieux et envoie en mission. Pour Irénée, cela voulait dire que ni le Saint-Esprit ni les apôtres n'auraient employé le titre de Seigneur pour personne d'autre que le Père et son Fils. Passons enfin aux partisans de la dérivation. Ces textes finirent, dit Pélican, par devenir la clé de l'intelligence orthodoxe, des textes d'identité, aussi bien que des textes de distinction. C'est la clé, la dérivation. Ce mot se trouve chez Tertullien, par exemple, il dit ceci, « Il faut donc comprendre que l'invisible est le Père, à cause de sa plénitude de majesté, et reconnaître le Fils, par contre, visible, à la mesure d'un écoulement, d'une dérivation. » Deux titres de dérivation qui avaient été présents dans le langage chrétien depuis le Nouveau Testament assumèrent largement les fonctions de tous les titres que nous venons de discuter, logos et fils. C'est à partir de ces deux concepts qui résistent à toutes les objections finalement et qui font aussi un peu le pont avec la cosmologie grecque, mais il ne faut pas exagérer le poids de philosophie spéculative grecque dans cette appropriation, si on veut, dans cette utilisation. Pélican dit en effet ceci en citant Irénée. N'oublions pas Apocalypse 19:13, qui montre qu'il y avait place dans le langage de l'Église pour un emploi de l'idée de logos, absolument pas philosophique. Je cite Apocalypse 19:13, j'aurais pu le mettre sur votre feuille de route. Écoutez, ça va se terminer par le mot « logos de Dieu »,« hologos tout teu », très philosophique semble-t-il, mais vous allez voir que dans l'Apocalypse, c'est tout un autre langage. « Alors je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et vrai. Il juge et fait la guerre avec justice. Ses yeux, une flamme ardente. Sur sa tête, plusieurs diadèmes. Inscrit sur lui un nom qu'il est seul à connaître. Le manteau qui l'enveloppe est trempé de sang. Et son nom, le Verbe de Dieu, Hologos tout teu. On peut difficilement dire que c'est de la philosophie. Et donc, ce qui est intéressant dans le petit exposé que je viens de vous faire, c'est que le mot homousios a été condamné dans la bouche de Paul de Samosate, et finalement il a été canonisé à Nicée. Mais évidemment, cet adjectif ne s'applique pas au même substantif. Dans un cas, c'est l'énergie, et dans l'autre cas, comme on va continuer à le voir, eh bien, c'est la personne divine, c'est l'hypostase du Logos. Donc c'est tout à fait intéressant de voir que l'hérésie de Samosate y est complètement réfutée et que l'utilisation de ce mot de consubstantiel condamnable chez lui devient normatif dans le nouveau cadre théologique que présentait le concile de 325. Je vous remercie. Et je passe la parole
Voilà, nous passons d'emblée à la troisième interprétation de notre soirée, celle de Joseph Moin.
Après l'Allemagne, Grillmayer, après les États-Unis, Pelikan, eh bien, la France, avec Joseph Moin, né en 1915, décédé en 2020. Il était jésuite. Il avait d'abord enseigné l'histoire des dogmes à la faculté jésuite de Lyon-Fourvière et par la suite, venu à Paris, il a enseigné à l'Institut catholique et également à ce qui s'appelait alors le Centre Sèvres, aujourd'hui faculté Loyola à Paris. Dans le cadre de son enseignement de l'histoire des dogmes à Lyon-Fourvière, il s'était déjà beaucoup intéressé aux symboles de foi du Concile de Nicée. Il est ensuite revenu sur ce concile dans la seconde partie de son itinéraire théologique à la faveur des grands ouvrages de théologie systématique qu'il a produits dans les années 1990 et suivantes. Joseph Moin traite expressément du Concile de Nicée dans son livre bien connu « L'homme qui venait de Dieu » paru en 1993, il avait alors 77 ans. Mais il traite à nouveau du Concile de Nicée dans trois ouvrages ultérieurs, le dernier étant paru en 2022, il avait 102 ans. Je voudrais parcourir justement l'évolution de Joseph Moin en repartant de son livre « L'homme qui venait de Dieu » de 1993. Dans ce livre de Christologie, il énonce d'emblée une thèse fondamentale. Nicée est certes un concile christologique, dans la mesure où il affirme, contrarius, la vraie divinité du Christ, mais Nicée doit être aussi tenu pour un concile théologique, car en disant que le Fils est consubstantiel au Père, le concile de Nicée introduit en fait une certaine conception de Dieu. Trois points à propos de cet ouvrage « L'homme qui venait de Dieu ». Tout d'abord, Joseph Moin insiste sur le fait que, avec le Concile de Nicée, le Christ est présenté comme fils au sens propre et non pas fils adoptif ou fils par adoption. C'est ce qu'indique d'ailleurs la reprise par le Concile de Nicée du mot qu'on trouvait dans l'évangile de Jean, le fils unique, l'unique engendré, monogénès. D'autre part, Joseph Moin rend attentif au fait que le Concile de Nicée ne dit pas simplement que le fils est Dieu né de Dieu, mais qu'il est vrai Dieu, né du vrai Dieu. Et on comprend pourquoi. Parce que Arius, certes, considérait le Fils comme une créature, mais néanmoins, il le qualifiait comme Dieu. C'est pourquoi le Concile de Nicée, en réponse à Arius, ne se contente pas de dire que le Fils est Dieu de Dieu, Dieu né de Dieu, mais il précise vrai Dieu, du vrai Dieu, né du vrai Dieu. Mais Joseph Moin souligne aussitôt l'implication de la formule « vrai Dieu ». Cette formule signifie que le mot « Dieu » n'est plus un nom propre, mais un nom commun. Alors que jusque-là, et déjà dans le Nouveau Testament lui-même, le mot « Dieu » qualifiait le plus souvent le Père, à quelques exceptions près. C'était le nom propre du Père dans le Nouveau Testament, en général, sauf exception. La formule « vrai Dieu » signifie en tout cas que le Fils est proprement et absolument tout ce que Dieu est par substance. Le Fils possède toutes les propriétés de la divinité, sans différence ni égalité. Et c'est justement ce qui est explicité par l'expression « c'est-à-dire de la substance du Père ». Il est engendré, non pas créé, « c'est-à-dire de la substance du Père ». C'est aussi ce qui est explicité par l'expression « consubstantiel au Père ». Il s'agit là, note Joseph Moin, d'un pas tout à fait important. Certes, dans les décennies antérieures, on affirmait déjà l'union du Fils et du Père, telle qu'elle ressortait de l'économie, de l'oikonomia, c'est-à-dire telle qu'elle ressortait de l'histoire du salut, rapportée dans les évangiles. Mais l'affirmation du concile de Nicée va plus loin. Et Joseph Moin en souligne à la fois la portée et le mérite. Je cite Joseph Moin. « On doit rendre au concile cette justice qu'il a voulu élever au plan de l'être l'unité du Père et du Fils qui était laissée par la tradition antérieure au plan de l'économie. Il a affirmé l'identité d'essence de l'un et de l'autre. » Voilà donc le premier point dans le diagnostic, dans l'analyse de Joseph Moin. Cependant, deuxième point, Joseph Moin est aussi conscient d'une limite inhérente au langage du concile de Nicée. Il remarque tout d'abord que le symbole de Nicée ne donne pas les repères essentiels de l'existence historique du Christ, à savoir sa naissance de Marie et sa crucifixion sous Ponce Pilate. De fait, Marie et Ponce Pilate ne sont pas nommés dans le symbole de Nicée. Certes, en 381, vous pouvez le voir si vous comparez le texte du symbole de Nicée et le texte du symbole de Nicée-Constantinople, avec la synopse qui est proposée dans le document. Certes, en 381, le concile de Constantinople introduit la mention de Marie et la mention de Ponce Pilate. Mais le concile de Nicée en 325 dit simplement « Le Fils est descendu et s'est incarné, s'est fait homme, a souffert et est ressuscité le troisième jour et monté aux cieux. » Or cela même, selon Moin, est comme le symptôme du tournant qui est pris par le concile de Nicée. L'insistance porte avant tout sur l'unité substantielle du Fils et du Père, et par le fait même, je cite Joseph Moin, l'existence du Fils de Dieu est déhistoricisée. Joseph Moin écrit « La vie historique du Fils de Dieu est enfermée, comme une parenthèse, entre deux moments d'éternité. Il est descendu, il est remonté. » Le schème même de la descente signifie que, je cite encore Joseph Moin, le regard de la foi s'est inversé. Auparavant, en effet, on faisait remonter le Christ jusqu'au commencement de l'histoire. On voit maintenant le Fils descendre de son éternité céleste, et quand on le considère dans sa condition historique, on n'oublie jamais de quelle hauteur il s'est abaissé. Joseph Moin, je tiens à le préciser, c'est un point à mon sens capital, Joseph Moin ne récuse absolument pas l'intention, la visée du concile de Nicée. Contre la doctrine d'Arius, il fallait effectivement souligner la véritable divinité du Christ. Mais, dit Joseph Moin, le langage utilisé par le concile de Nicée pour rendre compte de cette divinité a eu pour contrepartie une déhistorisation du Fils et une inversion du schéma de pensée qui présidait à la christologie du Nouveau Testament. Auparavant, on disait « Jésus est Fils de Dieu et Seigneur ». Désormais, on dit « Le Fils de Dieu est Jésus, car il est devenu homme ». Une inversion. Il y a donc eu substitution de sujet au sens où, je cite, « l'existant éternel s'est substitué au sujet du récit historique ». Il en a d'ailleurs résulté, ajoute Joseph Moin, une difficulté proprement christologique qui s'est manifestée ouvertement au Ve siècle. L'attribution au Christ d'une génération éternelle à Nicée fait peser une suspicion sur la génération qui s'est accomplie en Marie, qui en est le sujet propre. En fait, c'est justement cette difficulté qui a conduit Nestorius, au Ve siècle, à parler d'une simple conjonction entre la divinité et l'humanité, parce qu'aux yeux de Nestorius, c'était la seule manière de sauver le consubstantiel de Nicée. Tandis que la même difficulté a au contraire conduit le moine Eutychès, 20 ans plus tard, à la position dite monophysite, qui, elle, ne respectait pas suffisamment la véritable humanité du Christ. Le concile de Chalcédoine, en 451, a certes répondu à ces deux erreurs en affirmant que le Fils est à la fois consubstantiel au Père selon la divinité et consubstantiel à nous selon l'humanité. On voit bien que Chalcédoine complète ici le concile de Nicée. Réponse parfaitement juste, mais, souligne Joseph Moin, réponse qui s'inscrivait dans le cadre de la problématique induite un siècle plus tôt par le concile de Nicée. Je le redis, pour Joseph Moin, le concile de Nicée a eu le mérite essentiel d'affirmer contre Arius la véritable divinité du Fils. mais il l'a fait dans un langage qui marquait une prise de distance par rapport au schéma de pensée hérité des récits évangéliques. Ce qui incombe dès lors aujourd'hui, c'est de faire droit autrement à la visée du Concile. Il faut garder l'intention, la visée du Concile, mais il faut faire droit à cette intention d'une autre manière. Il n'est plus possible de poser au point de départ l'affirmation du Fils consubstantiel au Père. Une nouvelle obligation s'impose désormais, je cite Joseph Moins, c'est l'obligation de fonder la christologie sur les récits évangéliques et d'en faire une lecture croyante, accordée à la foi de l'Église qui annonce le Christ en racontant l'histoire de Jésus, en même temps que respectueuse de la vérité de l'histoire, comprise selon les requêtes de l'esprit moderne. Cette christologie prendra donc pour fondement l'événement pascal, qui est inséparablement la mort et la résurrection de Jésus, et c'est sur cette base que devra être établie la filialité divine de cet homme, mort et ressuscité, à charge d'établir ensuite, toujours en se laissant porter par les récits et les annonces évangéliques, l'éternité du don que Dieu fait aux hommes de son Fils, et de vérifier ainsi le concept d'incarnation. C'est précisément à cette tâche que Joseph Moins s'est consacré dans toute la seconde partie de son ouvrage « L'homme qui venait de Dieu ». Joseph Moins est revenu sur le sujet dans le deuxième volume de son ouvrage « Dieu qui vient à l'homme » paru en 2005. Il écrit d'emblée que, notamment par son usage du mot « consubstantiel », le dogme de Nicée marquait l'entrée en ontothéologie. Il reconnaît certes que le symbole de Nicée-Constantinople, prend son plein sens et sa pleine valeur quand il est compris sur la base des lectures d'Écriture, qui en sont le fondement. Toutefois, ajoute-t-il, le langage de l'être, emprunté par les conciles à la métaphysique grecque, n'est pas celui de l'Écriture, qui parle, en règle générale, un langage d'amour et de don. Or, l'amour s'exprime en termes de relation de l'un à l'autre, de communication entre sujets, non de nature ni de participation à une même substance. À cela s'ajoute une autre difficulté, à savoir que le mot consubstantiel, au Concile de Nicée, est donné au Fils unique de Dieu, né avant tous les siècles, et il ne peut pas être donné à l'homme Jésus. Ou si on attribue ce mot à la personne du Fils de Dieu, cela revient, dit Joseph Moins, à voiler l'historicité de Jésus, car il est impossible de le considérer concrètement comme étant à la fois un individu issu de la race humaine dans le temps et un existant éternel de provenance divine. Le symbole de foi demeure assurément, souligne Joseph Moins, une règle de foi imprescriptible, mais il importe pour en rendre compte de repartir désormais de l'Évangile et de la manière dont le Père, le Fils et l'Esprit se posent comme des personnes, d'accéder ainsi à la révélation de la Trinité historique et d'être par là conduit au plus intime de la Trinité éternelle. La position de Joseph Moins me semble ici très proche de celle qu'il développait dans « L'homme qui venait de Dieu », mais elle se déploie selon une perspective plus marquée de théologie trinitaire et, tout en refusant d'opposer le langage de l'amour au langage de l'être, elle donne au premier, le langage de l'amour, une place prédominante par rapport au second, le langage de l'être. Joseph Moins a de nouveau repris la question dans le premier volume de son nouveau livre « Croire au Dieu qui vient » qui est paru en 2014. Un livre qui est d'abord préoccupé de la crédibilité de la foi dans le monde contemporain. Joseph Moins écrit ici que la définition du Concile de Nicée, je cite, « croyait clarifier le grave débat qui divisait la chrétienté en utilisant des concepts rationnels, mais que ces concepts, je cite, étaient loin d'être clairs pour tous, même pour ceux qui les utilisaient. » Plus loin cependant, Joseph Moins s'attache à défendre à nouveau l'intention, la visée du Concile. Contrairement à ce qu'on a parfois dit, il est faux d'insinuer que le Christ aurait été divinisé par l'Église à Nicée sur le modèle des empereurs divinisés. En réalité, écrit Joseph Moins, l'Église à Nicée s'est explicitement fondée sur la foi la plus ancienne et continue pour dire comment devait être compris ce qu'on avait toujours cru à savoir que Jésus est fils de Dieu. Il reste que l'exigence actuelle d'une foi raisonnablement crédible invite à prendre désormais pour point de départ la considération de Jésus comme vrai homme, en le pensant comme un individu, une personne humaine, et non pas comme un Dieu tombé du ciel. Le propos de Joseph Moin se fait, me semble-t-il, plus radical dans le tout dernier livre qu'il a publié, « L'esprit du christianisme », paru en 2018. Comme on peut en juger par ces lignes qui marquent une distance par rapport à la formulation même du deuxième article du Credo de Nicée. Je cite, « Le deuxième article de la règle de foi entend affirmer l'appartenance de Jésus à l'histoire humaine. Mais y réussit-il vraiment ? Ce n'est pas évident, puisqu'il affirme que Jésus est fils de Dieu avant d'affirmer sa naissance humaine, ouvrant la voie à la définition de sa génération divine et éternelle par le Concile de Nicée, obstacle pour les hommes de notre temps à leur reconnaître vrai homme et vrai sauveur solidaire de leur histoire. » Quelques réflexions finales. Il me semble indéniable que les diagnostics portés par Joseph Moin depuis son livre « L'homme qui venait de Dieu » jusqu'à ce dernier livre « L'esprit du christianisme » témoignent d'une certaine évolution dans le sens d'un propos plus critique. Cette évolution, toutefois, ne doit pas empêcher de percevoir une continuité de fond. Tout en retenant, comme je l'ai dit, la visée, l'intention du Concile de Nicée, Joseph Moin ne cesse pas de dire que nous avons à repartir aujourd'hui de l'histoire même de Jésus et à découvrir comment Jésus s'est révélé à travers cette histoire comme fils de Dieu, plutôt que de présupposer a priori sa filiation divine. Je pense que c'est cette dernière affirmation, cette dernière thèse que l'on peut retenir avant tout de son apport. J'ajouterai quelques considérations qui me semblent importantes pour l'interprétation du symbole de Nicée. Tout d'abord, il est intéressant de se rappeler que le point de départ de Nicée, à savoir l'identité du Fils avec Dieu, est déjà attesté dans le Nouveau Testament à travers ce qu'on appelle la christologie haute, comme on le voit en particulier dans le prologue joannique, qui commence par « Au commencement était le Logos, et le Logos était tourné vers Dieu, et le Logos était Dieu ». C'est seulement quelques versets plus tard qu'il est dit « Et le Verbe est devenu chair ». Le prologue joannique, certes, est un aboutissement, mais il montre que, une fois présupposée la découverte du lien unique entre Jésus-Christ et Dieu le Père, il est légitime de poser au point de départ l'affirmation d'un tel lien. Au commencement était le Logos. On ne peut donc pas reprocher au Concile de Nicée d'avoir suivi un schème descendant, puisque c'était déjà le cas du prologue joannique. Simplement, on doit être conscient du fait que, comme le prologue joannique, ce schème descendant, qui est en œuvre avec le symbole de foi du Concile de Nicée, présuppose que l'on soit déjà parti d'une considération de Jésus dans son histoire concrète et que l'on montre comment Jésus, dans son humanité même, se révèle, comment à travers son humanité même se révèle sa filiation divine. Le centurion romain à la croix qui dit « Vraiment, cet homme était fils de Dieu ». Et je crois qu'on retrouve là l'importance de l'apport de Joseph Moin, qui insiste sur le fait qu'il faut repartir précisément de cette histoire concrète de Jésus pour arriver à la christologie haute du Nouveau Testament ou encore au schème du Concile de Nicée. Autre réflexion, on ne doit pas raisonner comme si le Concile de Nicée avait voulu tout dire. Chaque concile, en fait, répond à une question spécifique. Pour le Concile de Nicée, il s'agissait de répondre à la doctrine d'Arius. D'autres conciles, par la suite, ont eu pour objet de répondre davantage à d'autres courants qui, inversement, contrairement à Arius, minimiser l'humanité du Christ, et en particulier le Concile de Chalcédoine, qui, comme je le rappelais tout à l'heure, présente le Christ non seulement comme consubstantiel au Père selon la divinité, mais comme consubstantiel à nous selon l'humanité. Je soulignerai en outre qu'il importe avant tout de considérer le langage du Concile de Nicée comme un langage régulateur, ainsi que l'en va d'ailleurs pour les langages des autres conciles anciens. Comme le disait Bernard Sesbouet, comme il l'écrivait, l'énoncé du Concile de Nicée peut être compris comme un « c'est-à-dire ». D'ailleurs, le mot « c'est-à-dire » figure dans le texte même du symbole. Au sens où ce symbole de Nicée n'entend pas ajouter à la révélation néo-testamentaire, mais au sens où il entend expliciter ce sens de la révélation. C'est-à-dire, cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas d'autre langage possible pour dire la relation du Fils avec le Père, mais cela signifie que ces langages doivent tenir compte du point de repère essentiel que le Concile de Nicée donnait jadis dans le contexte de l'opposition à l'arianisme. Je terminerai en soulignant l'enjeu œcuménique actuel du symbole de foi nicéen. Catholiques, orthodoxes, anglicans et protestants, sauf exception, reconnaissent ensemble ce symbole de foi qui a été promulgué par le Concile de Nicée, bien avant les divisions du XIe siècle et du XVIe siècle. Et c'est pourquoi la commémoration commune de ce concile est en soi un événement précieux dans la perspective de la communion des Églises. Peut-être la tâche prioritaire qui incombe désormais aux Églises, à toutes les Églises, serait d'essayer de trouver des mots pour dire la foi de Nicée dans un contexte qui n'est plus simplement un contexte intra-ecclésial, mais qui est le contexte pluraliste de notre temps. Comment dire la foi au Fils, vrai Dieu, vrai homme et vrai Dieu, d'une façon qui soit audible et parlante aujourd'hui? Comment en rendre compte, en particulier, en présence de l'islam, pour qui Jésus est un prophète, mais non pas le Fils de Dieu? Comment en rendre compte? Comment rendre compte de la foi de Nicée en présence d'hindous, pour qui Jésus est au mieux un avatar du divin, au même titre que Krishna ou Shiva? Comment en rendre compte en présence de bouddhistes, pour qui la destinée de Bouddha, comme de tout être humain, n'est pas dans l'union avec un Dieu personnel, mais dans l'entrée dans le nirvana, où il n'y a plus aucune distinction entre moi et autrui? Joseph Moy ne soulève pas ces questions que je viens d'identifier, mais il me semble que son interprétation du Concile de Nicée nous donne d'importantes ressources pour y faire face, et pour faire ainsi que la commémoration de ce Concile de Nicée ne soit pas simplement un aboutissement, mais aussi et surtout un nouveau point de départ pour la réflexion christologique de notre temps.
Merci beaucoup Michel pour cette intervention qui nous a conduit jusqu'au nirvana. Je laisse la parole à Bernard pour la dernière intervention sur André de Halleux.
Voilà, mon exposé sera divisé en quatre points, de nouveau. Ce sont les quatre semaines des exercices qui réapparaissent tout le temps, hein. Alors, André de Halleux, que j'ai eu la chance, André de Halleux, que j'ai... Voilà. Ce n'est pas moi qui tourne le bouton, mais je peux être plus près du micro, j'essaye. André de Halleux, que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur, cette fois-ci, c'est un Belge, après l'Allemand, l'Étanusien et le Français, voici un Belge. Il est né à La Roche, en Ardennes, comme ma grand-mère maternelle. Il effectue sa première formation théologique chez les franciscains. À Louvain, il est professeur des pères orientaux, en particulier syriaque. Il est le directeur de la collection fameuse Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium. Il est donc un spécialiste de la langue syriaque avec des gens comme Philoxène de Mabouk ou Jacques de Sarrougue. Alors avec cet auteur, nous allons nous poser une question toute différente. André de Halleux se demande dans une de ses recherches, il en a fait beaucoup, pourquoi le credo de Nicée a pris la forme que nous lui connaissons, la forme. Donc pas une question de contenu, mais une forme que nous répétons depuis 1700 ans, sans plus nous poser la question du pourquoi de cette forme déclarative à laquelle nous sommes habitués. Bien sûr, on voit du premier coup d'œil qu'il y a une structure trinitaire où l'on énonce déclarativement une série de vérités dans des termes très précis auxquels tout chrétien doit adhérer en professant ce credo. Cette forme trinitaire, bien sûr, nous rappelle le signe de la croix ou bien les derniers versets de Matthieu, « Allez enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » En même temps, nous pourrons nous poser ensuite une autre question, celle du pourquoi de la possibilité de réciter le dimanche également, si l'on veut, une version courte du credo, appelée « Symbole des apôtres ». Quelle différence y a-t-il entre le symbole des apôtres et le credo de Nicée ou de Nicée-Constantinople. Mais nous allons d'abord justement nous pencher sur la forme et nous demander pourquoi on est arrivé à cette déclaration affirmative, donc, d'une série de vérités. Aujourd'hui, est-ce que c'est la forme la plus adéquate de notre expression verbale et intellectuelle de notre foi ? Y a-t-il des variantes ? Est-ce qu'elles sont permises ? Voilà, ça c'est la question. Alors tout d'abord, bien sûr, les chrétiens, de quoi disposaient-ils pour exprimer leur foi ? Ils disposaient, en se basant sur l'Écriture qu'ils lisaient continuellement, bien sûr, ils disposaient de la Regula Fidei, la Regula Fidei. Mais cette Regula Fidei, qu'on voit souvent au singulier, consistait en un résumé très variable des catéchèses que l'on présentait aux catéchumènes pendant leur formation en vue du baptême. Cette règle de la foi n'était certainement pas unique. Elle était très souple. Elle avait un schéma assez libre qu'un même auteur, un évêque par exemple, un didascale, un catéchiste si on veut, un professeur pouvait d'ailleurs présenter selon plusieurs variantes. Le même évêque avait plusieurs variantes. Il s'agissait d'un résumé des vérités de tradition apostolique qui contenait souvent des articles absents des symboles de foi, tels que par exemple l'harmonie des deux testaments. Ça ne se trouve pas dans le credo de Nicée-Constantinople. Les sacrements autres que le baptême qui est cité à Nicée-Constantinople, mais qui n'est même pas évoqué dans le symbole des apôtres. L'Eucharistie n'est évoqué nulle part. Est-ce que ça veut dire que là nous avons l'essentiel de la foi et que ce qui est en dehors n'est pas essentiel ? C'est donc là la question qu'on se pose. On voit bien aujourd'hui que certaines vérités essentielles de notre foi ne se trouvent pas dans aucun des credos que nous professons le dimanche. L'existence d'un symbole déclaratif dans la liturgie de l'initiation chrétienne n'est pas prouvable avant le milieu du IVe siècle. Le milieu du IVe siècle, ça veut dire, du temps et même un peu au-delà de Nicée. Ce qui se trouve attesté, en revanche, dès la deuxième décennie du IIIe siècle, avec la tradition apostolique d'Hippolyte, par exemple, c'est un formulaire de questions et réponses. Un formulaire de questions et réponses que l'on utilise encore parfois pour les baptêmes, dans des confirmations, des professions de foi, etc., et qui accompagnait la triple immersion. Une question, une immersion, une seconde question, une immersion, enfin voilà, il y avait différentes manières de s'y prendre. Et donc, voilà, nous avons des énoncés kérigmatiques qui se trouvent dans la Bible. Par exemple, saint Paul, 1 Corinthiens 15, je vous le lis. « Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à Képhas, puis aux 12, etc. » Cette lettre de Paul aux Corinthiens fut écrite dans les environs de l'année 57, dit-on, à peu de choses près. Il y a ensuite, au deuxième siècle cette fois-ci, les multiples formulations de la règle de foi. Quand on parle de la règle de foi, ce singulier nous trompe en fait. Il y avait de multiples expressions de la règle de foi. Et puis les questionnaires et enfin le style déclaratif. À propos de la règle de foi, De Halleux insiste, certains chercheurs développe souvent un genre d'argumentation qui pêche probablement par un excès de méticulosité dans l'analyse littéraire, oublieuse de la relative liberté formelle qui s'atteste tout au long de l'histoire des symboles, une liberté d'exprimer sa foi. On ne peut pas tout dire, la foi c'est quelque chose d'insaisissable, ça ne peut pas être coulé dans des formules où plus rien n'est dit à l'extérieur. Plusieurs évêques exposaient une profession de foi tout à fait personnelle à leurs fidèles, discutée parfois par des collègues lors de rencontres ponctuelles. Peut-être est-ce à partir d'alors que la règle de foi commença à devenir un exposé de foi, lorsqu'il y avait une espèce de joute oratoire ou de discussion pour savoir si telle formulation était meilleure qu'une autre. Mais la crise arienne marque certainement une étape décisive dans l'histoire des exposés de foi. Il y avait une grande liberté qui s'est un peu figée avec le concile de Nicée, mais pas tout de suite d'ailleurs, pas tout de suite. Il a fallu encore un certain temps, il a fallu 381, Constantinople, etc., qui entérinait de plus en plus une canonisation écuménique des formules des credos. Cette canonisation, donc, ajoute à l'élément de liberté, au contraire, un élément de type normatif et de type universel à la profession de foi, qui au cours des siècles précédents avait adopté une tournure plus souple, plus libre. Ajoutons d'ailleurs que c'est au concile d'Antioche de 325, parce qu'en 325 il y a eu trois conciles, Antioche, Ancyre, Nicée. Il y avait beaucoup de conciles, c'est-à-dire de réunions d'évêques. Puisque la liberté chrétienne était maintenant déclarée, les évêques en profitaient pour se rencontrer, etc. C'est là que, dans ce concile d'Antioche, en 325, on trouve pour la première fois un anathème qui accompagnait le credo. Donc pas seulement une proposition libre du credo, mais on ne peut pas dire comme ça. Celui qui dit comme cela, anathème soit-il. Voilà, et c'était probablement des propositions tirées d'Arius, de la Thalie d'Arius, comme on dit. Nous voyons donc qu'avec Nicée, il y a comme un durcissement de la profession de foi, dans sa formulation positive, déclarative, mais aussi de manière négative, avec des condamnations explicitement énoncées de positions déclarées hérétiques. Mais cela montre aussi à quel point la crise arienne semble vraiment avoir menacé la foi des chrétiens de l'époque. C'est pourquoi Jérôme dit quelque part « Un beau jour, le monde chrétien se réveilla à rien. » L'heure était donc grave. Et c'est bien l'empereur Constantin qui, non seulement en donnant la liberté religieuse au christianisme, mais en fonctionnant comme cet empereur qui a favorisé le christianisme, qui a fondé quelque chose de nouveau, ce qu'on appelle l'ère constantinienne. À l'aube, je lis ici un extrait de Halle. À l'aube de l'ère constantinienne, vous l'avez sur votre feuille, le credo de Nicée inaugurait de la sorte l'âge des symboles écuméniques. Ça veut dire de toute la terre habitée et christianisée, espérons-le. Plus directement soucieux de la norme objective de l'orthodoxie, plutôt que de la foi personnelle du croyant. Élaboré par des conciles d'empire, ces formulaires avaient en effet valeur de critères légal pour la reconnaissance des évêques légitimes, ainsi que pour l'exclusion des hérétiques ou leur réconciliation. Ce caractère nomo-canonique de l'exposé de foi correspondait d'ailleurs bien à la théologie politique de l'hellénisme chrétien, dont Eusèbe de Césarée avait été le premier théoricien, et selon laquelle l'empereur croyant, Constantin n'était pas le premier empereur croyant, mais c'est celui qui a vraiment fondé définitivement, la religion chrétienne dans l'Empire, selon laquelle l'empereur croyant, unique à l'image du seul vrai Dieu, l'empereur est unique, mais aussi égal aux apôtres, comme certains l'ont dit, comme Eusèbe de Césarée l'a dit, évêque séculier, se trouvait institué par la Providence, Michel en a parlé aussi, je crois, directement responsable devant le Tout-Puissant de l'unité religieuse de l'oïkouméné. Voilà donc une petite réflexion sur la forme, de la manière dont on exprime sa foi. Et maintenant, pour terminer, je reviens à la question de la différence entre le symbole des apôtres et ces credos de Nicée et Constantinople. Les deux se trouvent dans le missel romain, même le plus récent, et les deux peuvent être utilisés au cours de la liturgie du dimanche, même s'il y a une préférence chez certains pour le credo long. Qu'est-ce qui justifierait cette préférence? Je sors ici un peu du cadre des réflexions de Halle et je reprends un article que j'ai écrit dans le dictionnaire de critique de théologie de Lacoste sur les confessions de foi. Henri de Lubac avait étudié cette question du symbole des apôtres tout au long d'un ouvrage paru pour la première fois en 69. Une ancienne légende, rapportée notamment par Ruffin, veut qu'après la Pentecôte et avant de se disperser, les 12 remplis de l'Esprit-Saint énoncèrent chacun une vérité de foi. et ces 12 articles, eh bien, forment le symbole des apôtres. Cette croyance a vécu très longtemps, jusqu'au 15e siècle, jusqu'au Concile de Florence, où on devient un peu plus scientifique et on va examiner les sources. Cette légende, si on veut, voulait signifier que cette confession de foi dérivait immédiatement du charisme apostolique, consigné dans les Actes des Apôtres et les Épîtres. Mais l'histoire de ce symbole des apôtres est bien plus complexe. Il est en fait une variante du vieux credo romain, qui n'apparaît sous une forme fixe, plus ou moins officielle, qu'à la fin du IIe siècle. En tout cas avant le règne du pape Victor, semble-t-il, selon Kelly, un spécialiste. Il était rédigé en grec et en latin simultanément. Il circulait dans les deux langues. Mais la prépondérance de l'église de Rome en Occident provoqua un alignement des églises locales sur ce vieux credo romain. Le symbole des apôtres en est une variante, mais qui doit surtout sa fortune à l'uniformisation liturgique entreprise par Charlemagne. Le point important, c'est que ce credo, ce symbole des apôtres, n'a donc fait l'objet d'aucune sanction œcuménique. Aucun concile n'a ni rédigé ni entériné ce symbole des apôtres. C'est pourquoi, je ne sais pas si vous le saviez, les églises orthodoxes ne le reconnaissent pas comme canonique. Elles l'excluent de leurs prières et de leur liturgie et choisissent systématiquement le credo de Nicée-Constantinople. Il y a donc là un enjeu œcuménique, comme Michel l'a dit aussi à la fin de sa partie sur moi, un enjeu œcuménique que j'ai pu vérifier moi-même lors d'une des réunions annuelles des théologiens de toutes les églises chrétiennes présentes en Belgique. Les orthodoxes ne veulent pas entendre parler du symbole des apôtres trop romain, et pas canonisé par un concile. Saint Augustin, par exemple, lors de son baptême, a professé, non pas le credo de Nicée, qu'il connaissait mais qu'il mentionne rarement, il a professé le credo de Milan. Le credo de Milan, voilà, il y avait un credo à Milan. Pour terminer, l'existence des symboles de foi est nécessaire à la vie de l'Église et à la foi personnelle. Ces symboles donnent à chacun un contenu à sa foi et reconnaît l'unité de l'Église à laquelle il adhère. La foi, bien sûr, inclut bien d'autres vérités intellectuelles, mais surtout existentielles aussi. Celles qu'explicite les symboles sont centrales, sont irremplaçables, incontournables, mais ce ne sont pas les seules, ni peut-être la seule forme qui importe avant tout. Karl Rahner, par exemple, a souligné à la fois l'importance de ces confessions de foi, mais aussi, pourquoi pas, l'importance de brèves confessions de foi qui seraient différentes. Il serait possible de reformuler aujourd'hui la foi de manière non canonique dans d'autres textes possibles à condition, il lui semble que ça c'est le point essentiel, à condition qu'ils énoncent la foi au Jésus historique. Il propose concrètement dans son Grundkurs, que l'on étudie ici, je sais bien, trois exemples de formules brèves de la foi, une formule brève théologique, une formule brève anthropologique et une formule brève futurologique. Ça veut dire qu'il porte sur l'eschatologie, sur la vie à venir. Je vous remercie.
Merci beaucoup Bernard. Vous voyez que nous avons plus d'une demi-heure maintenant pour le temps de questions qui nous attend. Je vous propose de prendre plusieurs questions, ça laissera à nos intervenants la possibilité de commencer par celles qu'ils préfèrent, donc peut-être quelque chose comme 4 ou 5 questions peuvent être posées. Le père Hugues Vermès va vous passer le micro. Essayez, quand vous posez une question, d'être le plus concis possible pour votre question. Merci beaucoup.
Des disciples, en quelque sorte, à l'époque contemporaine.
La question était, est-ce que Arius a encore des disciples aujourd'hui ?
Qui se dit dans les églises de France, j'aurais pensé le contraire, c'est-à-dire la plupart des gens préfèrent le symbole des apôtres au symbole de Nicée. Vous avez une interprétation de cette préférence ?
Voilà, une dernière question peut-être, et puis nous allons laisser nos intervenants répondre.
Grégoire Palamas parle des énergies, il me semble, et moi je trouve ça bien intéressant.
Alors, quelle est votre question ? Grégoire Palamas parle des énergies.
Voilà.
Est-ce que Grégoire Palamas est un hérétique en parlant d'énergie ?
Voilà.
Je dirais volontiers quelques mots sur la première question qui m'est directement adressée. Oui, en fait, la formule que je citais, donc c'est une formule du Concile de... Le Concile de Nicée avait dit en 325, le Fils de Dieu est consubstantiel au Père. Et un peu plus d'un siècle après, en 451, le Concile de Chalcédoine dit le Fils de Dieu est consubstantiel au Père selon la divinité et consubstantiel à nous selon l'humanité. Alors je vous remercie pour votre question, elle est très très juste, hein. J'avais noté cela mais je n'avais pas le temps de le dire. On voit bien quelle est la visée du Concile de Chalcédoine. La visée du Concile de Chalcédoine, c'est au fond que l'insistance du Concile de Nicée sur la consubstantialité du Fils avec le Père ne soit pas un alibi pour atténuer l'affirmation de son humanité. D'où ce complément, il est également consubstantiel à nous selon l'humanité. Mais vous avez parfaitement raison, il y a quelque chose d'un peu dissymétrique, parce que le mot consubstantiel n'a pas exactement la même portée dans le second cas que dans le premier. Pour la raison même que je disais tout à l'heure. Et de fait, en rigueur de terme, il faudrait dire consubstantiel au Père selon la divinité et de même nature que nous selon l'humanité. Vous avez tout à fait raison. Pour la raison que je disais tout à l'heure, voilà, la différence entre nature et substance.
Et j'ajouterais peut-être que le Concile le dit exprès pour que nous réfléchissions à cette question, pour que nous posions la question que vous dites là, hein. Et que dans chaque cas, eh bien, on se rend compte à quel point le Christ est consubstantiel à nous, ce qui est aussi un article de foi, hein, c'est pas si évident, et malgré tout, en plus, hein, consubstantiel au Père. Donc je pense que c'est un peu une formule qui défie l'intelligence. Je crois que le vocabulaire théologique, hein, n'est pas un vocabulaire qui a la rigueur philosophique, non pas parce qu'elle est incapable d'avoir cette rigueur, mais parce que les purs concepts sont toujours analogiques et sont toujours symboliques en théologie.
Voilà, les deux autres questions portaient, est-ce que Arius a des prolongements aujourd'hui ?
Mais je pense que l'adoptionnisme comme tel, je n'en vois pas de traces autour de moi, de manifestations, mais dire que Jésus est un homme comme tout le monde, mais extraordinaire, et peut-être l'homme le plus formidable de l'histoire et tout ça, ça on entend beaucoup de gens qui le disent. Mais l'idée d'être adopté par Dieu, non, je crois que ça ne circule pas. Mais la forme d'arianisme que nous connaîtrions aujourd'hui est celle qui dit simplement que c'est un homme. Oui, ça on voit ça, je crois, chez beaucoup de nos contemporains, même croyants, même chrétiens. Et je dirais, que faut-il faire avec ça ? Ben, est-ce qu'il faut les anathématiser, les excommunier, ou bien est-ce qu'il faut patiemment, eh bien, disons, vivre les choses avec eux en discutant, etc., peut-être, pour arriver à une foi qui est plus complète, qui doit être plus complète, oui.
Alors Bernard, puisque vous avez la parole, on vous la laisse, puisqu'il y avait une autre question qui vous était adressée sur la préférence aujourd'hui qui semble se vérifier pour le Concile de Nice, le symbole des apôtres dans notre liturgie.
Oui, alors je crois qu'il y a plusieurs éléments qui jouent, évidemment. Est-ce qu'ils sont tous théologiques et dogmatiques ? Je n'en sais rien. En tout cas, le symbole est plus court, hein. Et donc, lorsque l'homélie a été longue, on est pressé de terminer le credo ou le symbole. Alors, est-ce qu'il est meilleur ? Ben non, pour l'Église catholique, les deux sont équivalents, je dirais, hein, au niveau de du choix. Je crois que c'est aussi une question de sensibilité. Moi, je connais beaucoup de jeunes qui, non pas par traditionnalisme ou par quelque chose comme ça, préfèrent le long parce qu'il est plus informatif. il donne plus à penser, il est plus, je dirais, il renseigne mieux sur une foi qu'ils connaissent peu, hein, alors qu'il leur semble parfois que le symbole des apôtres est plus court. Mais à mon avis, c'est surtout une question de sensibilité. Et l'Église catholique a raison de n'exclure ni l'un ni l'autre, comme le font les orthodoxes, avec une raison qui est valable aussi et qui fait tout son sens.
Tu veux dire un petit mot sur Palamas ?
Alors, Palamas est un auteur compliqué, hein, qui parle d'énergie, mais Grégoire de Nice parle d'énergie aussi. Hein. Donc, c'est comme avec Paul de Samosate et Nicée, il faut voir dans quel contexte il parle d'énergie. Mais je crois qu'en effet, les énergies de Vinci et Palamas sont difficilement compatibles, je dirais, avec la théologie standard catholique thomiste, par exemple. Hein. Et donc, il y a beaucoup de polémiques autour de Grégoire Palamas pour savoir si les catholiques le considèrent comme hérétique, mais certainement pas les orthodoxes.
Voilà, je me tourne vers le père Alban Massy pour savoir s'il y a quelques questions qui pourraient venir de Zoom, en n'hésitant pas à faire pareil, en posant 3 ou 4 questions directement pour Michel et Bernard.
Voilà, j'ai l'impression d'être au dossier de l'écran autrefois. C'est SVP 11-11. Voilà. Il y a d'abord une question au sujet de Joseph Moin pour Michel Fédoux. Peut-on véritablement dire que Jésus doit être pensé comme une personne humaine, n'est-ce pas justement se rendre impossible de retrouver la filiation divine éternelle? Jésus-Christ n'est-il pas au contraire le propre Fils de Dieu, radicalement incompréhensible, sans cette filiation? Filiation qui nous révèle la vocation humaine à la filiation, et par là ce qu'il y a de plus haut dans l'homme, sans pour autant confondre filiation éternelle et filiation adoptive, à laquelle nous sommes appelés. Alors ça, c'est une question. Puis je me permets une autre question, si vous voulez bien, à propos de Méliton de Sardes, qui a été cité. Est-ce que, hélas, je crois que c'est une question de professeur à professeur, est-ce que la formule de Méliton de Sardes qui a été citée n'est pas cependant juste dans la perspective de la communication des idiomes du Concile et du Concile?
Oui, merci pour ces questions. Je dis un mot par rapport à la première question. Je crois d'abord tout dépend de ce qu'on entend par la notion de personne, une notion dont l'interprétation est difficile. Parce que si on entend personne au sens de personnalité, dont l'usage un peu courant du mot personne aujourd'hui, un individu, une personnalité, bon, évidemment, on va parler de la personne humaine de Jésus-Christ. Mais dans la tradition chrétienne, en tout cas dans le premier millénaire, à partir du 4e, 5e siècle, quand on parle de la personne, persona en latin, bon, en grec c'est un autre mot, prosopon ou hypostasis, on ne désigne pas la personne humaine, on désigne la personne du verbe fait chair, l'hypostase du verbe fait chair. Donc je dirais, pour répondre à votre question, tout dépend du sens dans lequel on entend ce mot personne. Ce qui est sûr, c'est que du point de vue christologique, eh bien la notion de personne humano-divine ou divino-humaine, ce qu'on appelle traditionnellement en langage technique l'hypostase du verbe fait chair, c'est ce qui désigne vraiment l'unité du verbe fait chair. Une unité telle qu'elle ne revient nullement à atténuer ou à court-circuiter l'affirmation et la consistance de l'humanité du Christ. Voilà. Et au fond, le paradoxe, hein, de l'affirmation christologique consiste à faire droit inséparablement à l'unité du verbe fait chair, contrairement par exemple à ce qui a été dit par Nestorius au 5e siècle, et en même temps à tenir une vraie autonomie, une vraie consistance de l'humanité du Christ. Voilà ce que je dirais rapidement, ça demanderait beaucoup plus de développement. Mais...
Sur la deuxième question, pour que tout le monde la comprenne bien, elle porte sur cette formule de Méliton de Sardes que nous a citée Bernard, une formule qui identifie le Père et le Fils en disant « Lui qui est impassible souffre et n'en tire pas vengeance ». Lui qui est immortel meurt et ne répond pas un mot. Est-ce que cette formule pourrait être orthodoxe?
Alors justement, Pélican le met dans le deuxième groupe de textes, hein, qui ne sont pas des textes hérétiques, comme le premier groupe, mais qui sont des textes pas suffisamment subtils, pas suffisamment intelligents. Alors, il faudrait revoir le contexte. Hein, de qui parle-t-il là, quand il dit « lui » ? Est-ce qu'il parle de Dieu ? Est-ce qu'il parle du Père ? Est-ce qu'il parle de Jésus ? Alors ça, je me souviens plus très bien. Mais vous voyez que ce sont un peu des formules à l'emporte-pièce qui disent quelque chose de très vrai. Et si on le comprend dans le contexte, cette proposition est sauvable. Mais est-ce qu'elle n'est pas un peu trop ambiguë, hein, pour pouvoir être tout à fait exacte ? Alors je signale, par parenthèse, que saint Thomas d'Aquin, par exemple, lorsqu'il parle des noms de Dieu, il dit « il y a toutes sortes de manières de parler de Dieu, de nommer Dieu. Il y a des manières qui sont carrément fausses, hein, il y a des manières qui sont ambiguës, et des manières qui sont meilleures que d'autres. » Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, il faut prendre évidemment les formules les plus précises possibles, mais si à chaque fois on doit faire une équation trinitaire chaque fois qu'on prie, on ne sait plus s'en sortir non plus. Je vous donne ici, par exemple, quelques formules. Vous allez me dire si elles sont justes ou pas. Enfin, Jésus est un homme. Jésus est Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu le Père. Jésus vient de Dieu. Mais toutes ces formules sont justes si on les comprend bien dans un contexte. Mais si on dit Jésus est un homme et n'est qu'un homme, ben c'est faux évidemment. Hein? Jésus est Dieu, oui, mais si on dit Jésus est Dieu et il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus, on est mal parti. Donc je dirais toutes ces formules doivent être d'abord remises dans le contexte de l'auteur et puis dans le contexte de celui qui les comprend et se rendre compte qu'il y a des formules qui sont meilleures que d'autres. Hein? Ça ne veut pas dire que les moins bonnes ou sont hérétiques. Hein. Sinon, ce serait bon un langage codé que seuls connaîtraient les initiés. Donc, il y a une certaine liberté, mais une liberté qui ne doit pas, je dirais, pêcher par trop de flou, quoi.
Oui, il y a eu une très faible participation des Occidentaux au Concile de Nicée. J'avoue que je ne saurais pas dire, hein, du point de vue historique, à partir de quand le symbole de Nicée-Constantinople a été récité. Je ne sais pas si Bernard le sait, en Occident. Ce qui est sûr, c'est que au temps de Charlemagne, non seulement c'est récité, mais Charlemagne contribue fortement à imposer l'addition filioque. L'esprit procède du Père et du Fils. Mais bon, là, avec Charlemagne, on est au fin du 8e, début 9e siècle. Alors, quand est-ce que ça a commencé? Je ne saurais pas dire.
Eh bien, il me semble qu'en lisant justement Pietras, dont on parlait tout à l'heure, il dit que le symbole de Nicée ne s'est pas imposé le lendemain du concile de Nicée partout. C'était un concile parmi les nombreux autres. Celui, comme je vous disais, en 325, il y a eu Antioche, il y a eu Ancyre, il y a eu Nicée, etc. Alors, celui-là avait certainement plus d'importance de cérémonie et d'ampleur parce que le Constantin était là, l'empereur était là. Mais il ne s'est pas du tout imposé du jour au lendemain. J'ai là un petit document où cinq évêques viennent devant l'empereur Théodose avec une profession de foi. Hein, et l'empereur Théodose doit accepter ou refuser les unes ou les autres. Donc à ce moment-là, chaque évêque avait encore sa possibilité de professer sa foi. Je crois que c'est surtout les conciles suivants qui ont canonisé Nicée. Hein. Constantinople, en reprenant Nicée et en le perfectionnant, évidemment ajoutait une valeur importante à Nicée, parce que c'est Nicée qu'on a complété et pas non en Cire ou je ne sais pas quel autre. Mais donc, pendant très longtemps encore, je crois que la souplesse dont je vous ai parlé, hein, de la regula fidei ou des professions de foi inventées, je dirais, par les évêques locaux, avait cours. Et ce n'est que progressivement que, disons, Nicée a eu toute sa valeur normative, mais c'est dû aussi à des circonstances, je dirais, politiques et théologiques aussi, bien sûr, qui ont suivi Nicée de nombreuses décennies après.
Voilà, on a encore le temps de prendre d'autres questions, si la salle en a.
Bonjour. Oui, merci beaucoup d'abord. J'ai une question vraiment à ras de terre à propos de la formule de même nature, notamment par contraste avec le reste de la langue, avec la langue de tout le reste du credo. Voilà, ça arrache un peu la bouche quand même. Voilà.
Merci beaucoup. D'autres questions ?
Pourquoi ce besoin de reprendre les formules et d'ajouter d'autres choses ?
La question, c'est quel est quel est le contexte du concile de Constantinople, qui a fait qu'on a voulu compléter le concile,
de Nicée. Ouais. Merci.
Par rapport aux enjeux d'inculturation dont Michel Fédoux a parlé, y a-t-il aujourd'hui des instances ou des auteurs particuliers qui travaillent ou qui sont intéressants justement pour cette inculturation dans d'autres cultures, loin de chez nous?
Si vous pouvez répéter les questions pour les gens sur Zoom qui n'entendent pas le micro sans fil.
Alors, nous avons trois questions. La première demande si la formule « de même nature que le Père » dans la traduction ancienne du credo était si mauvaise que ça, parce qu'elle semble expliquée par le reste du credo, et on a introduit au terme « consubstantiel » qui peut-être ne sonne pas aussi bien que le reste du credo. Voilà la première question. La deuxième, c'est pourquoi est-ce que le symbole qui a émergé du concile de Nicée, pourquoi est-ce qu'on a éprouvé le besoin de le compléter en 381, une petite soixantaine d'années après, pour étendre ce symbole? Et la troisième question, c'est, Michel, à la fin, a appelé de ses voeux une inculturation du symbole de Nicée, enfin, au moins a posé la question de savoir comment est-ce qu'il rencontre d'autres cultures. Et la question qui lui a été posée, c'est quels auteurs ont justement travaillé sur cette question?
Je commence par la dernière question, ou la première? Non. Peut-être un mot sur la première et un mot sur la troisième. Voilà. Sur la première question, oui, de même nature que le Père. Alors, je dirais, c'est une traduction qui n'est pas mauvaise du tout. Simplement, la traduction par consubstantiel est plus littérale, voilà ce qu'on peut dire. Elle n'est pas mauvaise du tout. Tout à l'heure, j'ai évoqué la position de Yves Congard, de Jacques Maritain, d'Henri de Lubac. Enfin, il y a eu quelques protestations en 1965 contre la traduction du latin consubstantialis par le français de même nature que, mais c'était pas unanime. Un autre penseur de l'époque, Henri-René Maroux, qui était surtout un historien, lui a trouvé que la réaction d'Yves Congard ou d'Henri de Lubac était excessive. Henri Maroux, effectivement, disait, bon, de même nature que le Père, ça suffit, on voit de quoi il s'agit. Et effectivement, c'est suffisamment expliqué par ce qui précède. Voilà. Je crois que c'est très important de dire ça, parce que quand même, tous les chrétiens qui, depuis 1965, jusqu'à il y a 3 ans ou 4 ans, ont dit de même nature que le Père, ne sont pas hérétiques. Enfin, je veux dire, ils ne sont pas hérétiques pour la raison qu'ils ont dit de même nature que le Père. Donc c'est une traduction qui est légitime, simplement elle est moins littérale que la traduction consubstantielle. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Alors, un mot maintenant sur la troisième question, puis je laisserai Bernard compléter, notamment pour la deuxième. Mais oui, des exemples de théologiens qui auraient justement essayé de transposer, de traduire dans une perspective d'inculturation le sens même de l'énoncé de foi du Concile de Nicée. Oui, je peux donner 2 exemples au moins, mais il y en a sûrement d'autres. Premier exemple, en Inde, un théologien qui s'appelle Michael Amalados a écrit un livre qui s'appelle Jésus asiatique. Enfin, la traduction française du titre, c'est Jésus asiatique. Et dans l'un des chapitres de ce livre, il propose d'exploiter en quelque sorte un concept, une notion qui est très présente dans les traditions de l'hindouisme, qui est la notion de avatar. Un avatar dans l'hindouisme, avatar ça veut dire littéralement descente. Avatar, c'est le mot qui dans l'hindouisme désigne les manifestations du divin. C'est-à-dire que il y a bien sûr l'absolu, Brahman, mais il y a aussi un certain nombre, et un nombre certain, de manifestations du divin. Voilà. D'ailleurs, pour certains hindous, pour un certain nombre d'hindous, Jésus est, pourquoi pas, une manifestation du divin parmi d'autres, un avatar du divin parmi d'autres. Alors Michael Amalados, dans le livre auquel je fais référence, utilise cette notion et dit on pourrait très bien parler de Jésus comme d'un avatar du divin, à condition toutefois de préciser que Jésus est un avatar pas comme les autres en quelque sorte, parce que l'incarnation c'est pas simplement n'importe quelle manifestation. Dans le christianisme aussi, nous reconnaissons qu'il y a de multiples manifestations de la divinité, mais nous reconnaissons que l'incarnation est unique. Et donc, Michael Amalados, voilà, reprend ce concept aux traditions de l'hindouisme, mais il montre en même temps jusqu'à quel point c'est possible et à partir de quel point il faut discuter l'usage de ce concept. Deuxième exemple, là c'est un théologien taïwanais qui a écrit toute une étude sur les catégories de ciel et terre. Les catégories de ciel et terre sont très très importantes dans la tradition confucéenne. Et au fond, il essaye de montrer comment on peut rendre compte de l'union du Fils et de Dieu le Père en jouant, en quelque sorte, au bon sens du mot, avec les catégories de ciel et de terre. L'union du ciel et de la terre réalisée en cet homme, Jésus, mais une union qui n'est pas une confusion pour autant. Voilà. Deuxième exemple.
Oui, je prends peut-être la deuxième question alors. La deuxième question, pourquoi est-ce qu'on a dû compléter Nicée? Eh bien, je crois qu'il y a deux facteurs. D'abord, un facteur général, c'est que les pères qui ont utilisé le mot homoousios n'avaient pas tous la même conception de ce que ça voulait dire. Alors, ils se sont mis d'accord sur un terme, mais pourquoi? Alors, certains disent simplement parce que Arius détestait ce terme. Hein. Donc, puisque Arius n'en voulait pas, eh bien, on allait le prendre pour vraiment bien le condamner. Bon, je crois que ce n'est pas suffisant, mais peut-être que c'est entré en ligne de compte. Mais tous les évêques n'avaient pas la même idée de ce que voulait dire homoousios. Et ça joue sur les deux concepts de ousia et de hypostasis, hein, où il y avait une forme d'équivalence que après on a dégagé grâce aux pères cappadociens qui ont dit non une ousie, trois hypostases. Mais il y avait donc une confusion entre ces deux termes, si bien que voilà, dans un cours que je donne, je fais un petit tableau comme celui-ci où je mets les parties qui après 325 se sont écartées les uns des autres parce qu'il y avait les homéousiens, donc ceux qui sont pour l'homoïsios. Il y avait les homéousiens, donc semblables, pas la même au sens identique, mais semblables. Il y avait ceux qui étaient homéens, il y avait ceux qui étaient anoméens. Enfin bon, il y a eu toutes sortes de bagarres, et Athanase lui-même a changé d'avis au cours du temps. Pour lui, l'ousie et l'hypostase étaient la même chose en 325, et en 362, il s'est rendu compte qu'il fallait dire non, l'ousie et l'hypostase, c'est deux choses différentes. Mais il lui a fallu 30 ans pour ça. Et pourquoi est-ce qu'il a changé d'avis? Entre autres parce qu'il était en exil. Vous savez qu'il était en exil ici tout près, il était à Trèves. Hein. Pour des raisons politiques et administratives, il a été chassé d'Égypte. Il est arrivé ici, il a eu des contacts avec les Occidentaux, il a réfléchi, etc. Et petit à petit, Athanase, qui a été évidemment un très grand théologien de cette époque-là, entre Nicée et Constantinople, a fini par tirer au clair toutes ces bagarres qu'il y avait entre les évêques qui ne comprenaient pas la même chose sous le terme homoousios. Donc pourquoi a-t-il fallu compléter Nicée? C'est parce que Nicée, finalement, est arrivé à un moment où le terme n'était pas mûr, si j'ose dire, hein, et les gens n'étaient pas au clair sur le sens, et il a fallu tout ce temps-là pour préciser davantage à Constantinople, ça a paru une chose indispensable, et ça s'est fait grâce aux trois Cappadociens, comme on dit, hein, c'est-à-dire Grégoire de Nazianze, et puis les deux frères Grégoire de Nice et Basile de Césarée. Je ne sais pas si
on peut ajouter aussi que dans le contexte historique, dans les années 360-70, il y avait un certain nombre de chrétiens qui niaient la divinité de l'esprit. Donc il reconnaissait éventuellement la divinité du Christ, mais nier la divinité de l'Esprit. Et c'est pourquoi aussi le Concile de Constantinople a ajouté les fameux mots que nous connaissons, l'Esprit est saint, il est Seigneur, il est saint, il donne la vie, il procède du Père, si on ajoutait, et du Fils par la suite, avec le Père et le Fils, il reçoit même une relation, même gloire. C'est à cause du contexte historique où il y avait également des problèmes autour de la divinité de l'Esprit. Ce qui n'était pas le problème au moment du Concile de Nicée.
Or, l'Esprit aussi est consubstantiel, hein. Mais on s'est bien gardé de remettre le couvert, et on a dit cette fois-ci, on ne parle plus de consubstantiel, on dit les seigneurs, etc. C'est suffisamment explicite.
Je note simplement quand Michel nous a parlé de Joseph Moins que ça nous a fait sourire quand il nous a rappelé que Joseph Moins disait que les concepts étaient loin d'être clairs pour tous, même pour ceux qui les utilisaient. Je trouve ça intéressant que Bernard nous dise, mais il y a quelque chose de vrai là-dedans. Est-ce que du côté de Zoom, on aura encore peut-être quelques questions pour les minutes qui nous restent?
Autrefois.
Est-ce que le mot de substance a aujourd'hui le même sens que celui qu'il avait autrefois au moment du Concile de Nicée?
Mais d'abord, déjà au moment du Concile de Nicée, il y avait plusieurs sens. Chez Aristote même, il y a la substance première et la substance seconde, comme il dit. Je ne sais pas pourquoi il a pas changé de terme. Enfin, il y avait déjà une ambiguïté que seuls les philosophes assez exercés parvenaient à maîtriser sans confondre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le mot substance dit assez peu de choses. Enfin, avec Descartes, on utilise encore le mot substance. Je crois qu'il y a la substance étendue et la substance pensante. Mais est-ce que ça vous parle, que vous êtes une substance? Mais je crois que c'est comme le mot personne, hein. Ce sont des termes qui évoluent dans la culture et la philosophie, dans le commun des mortels, mais aussi chez les philosophes. Il faut prendre chaque philosophe avec son vocabulaire, souvent, hein.
Oui, je voudrais à ce propos rappeler quand même la belle traduction qui avait été trouvée par la commission œcuménique chargée il y a 25 ans ou 30 ans de traduire le credo de Nicée-Constantinople, un seul être avec le Père. Alors, c'est une traduction qui n'a pas été adoptée finalement, mais il faut savoir qu'elle peut être utilisée dans des célébrations œcuméniques, un seul être avec le Père. Ce que je veux dire aussi, c'est que ce qui me semble important, bien sûr le concept de substance change de signification au fil des siècles, ce qui me semble très important sur ce point comme sur d'autres, c'est d'avoir toujours le réflexe de se dire quelle est l'intention du Concile, au fond, qu'est-ce que le Concile veut faire entendre de la révélation évangélique à travers l'usage d'un tel mot. Et moi je dirais, par exemple, dans le cas précis de ce mot substance, hein, c'est-à-dire la même substance, la substance du Père, ce qui est à l'arrière-plan, c'est la parole de Jésus dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. » L'évangile de Jean, Jésus dit aussi dans l'évangile de Jean, « Le Père est plus grand que moi, forcément, puisque le Fils se reçoit du Père. » Mais Jésus dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Il dit l'un et l'autre. Et au fond, on peut dire que l'usage du mot substance ou l'usage du mot consubstantiel au Concile de Nicée est une forme d'explicitation philosophique, de traduction philosophique dans un langage audible pour les intellectuels, pour les penseurs grecs du IVe siècle, une traduction philosophique, une explicitation philosophique de cette parole de Jésus, « Moi et le Père, nous sommes un. »
Alors peut-être, ça va peut-être être la dernière question, ou peut-être...
Voilà, donc. Donc vous savez tous et nous savons tous que Dieu est amour et Dieu n'est que amour. Donc moi ma question est la suivante, comment se fait-il que dans ce texte fondateur du credo qui décrit finalement qui est Dieu, et comme dans le texte du Notre Père que l'on récite à la messe, comment se fait-il que dans ces deux textes fondateurs, le terme « amour » soit absent?
Ben, c'est la preuve que aucun texte ne pourra jamais tout dire sur Dieu. On pourrait dire que le texte fondamental fondateur du christianisme, ce sont les béatitudes. Mais là, il y a davantage du côté de l'amour, mais Le mot amour ne se trouve pas là, non plus. Mais il y a la miséricorde, etc., il y a la paix. Je dirais que c'est la preuve que aucun texte, aucune phrase, aucune définition ne définira jamais Dieu. Mais Saint Jean dit Dieu est amour. Et donc, à ce moment-là, ben, on l'a vraiment, voilà. Moi, je pense que c'est toujours difficile de dire, il manque ceci, il manque cela. Parce qu'on a tout à fait raison. Alors, s'il manque vraiment la chose centrale et unique, c'est vraiment dommage. Hein, mais on dit quand même que Jésus a souffert pour nous, etc. Bon, ben, je crois que beaucoup de gens le comprennent comme l'amour, quoi.
D'une certaine manière, dans l'évangile, Jésus ne dit jamais le Père est amour. Mais il nous donne énormément de paraboles pour le faire comprendre, comme la parabole de l'enfant prodigue. On a un petit peu quelque chose, je trouve, dans la réponse de Bernard, c'est-à-dire que le credo ne le dit pas, mais à travers le fait que le Christ a donné sa vie pour nous, etc., on a quelque chose de l'amour de Dieu qui est signifié. Voilà, on va s'arrêter ici puisqu'il est l'heure. Je vous invite à applaudir nos deux intervenants pour ces... Merci à eux pour ces quatre interventions. Je vous signale une toute petite chose, si vous vouliez poursuivre un petit peu en christologie avec eux. Je vous signale pour chacun deux ouvrages de christologie. Pour le père Michel Fédoux, il a publié récemment un grand traité de christologie dans la collection Cogitatio Fidei aux éditions du Cerf, qui s'intitule « Jésus-Christ dans l'histoire humaine et le mystère de Dieu ». Et si cela était trop long pour vous, mais que vous vouliez lire quelque chose de Michel Fédoux, dans la nouvelle revue théologique, vous trouverez, dernier numéro, un article de lui sur le concile de Nicée et ses enjeux actuels. Quant au père Bernard Potier, il a publié en 94 « Dieu et le Christ » selon Grégoire de Nice. Et 30 ans plus tard, l'an dernier, il a publié un livre qui s'intitule « 15 portraits philosophiques du Christ », un livre où il explore comment Pascal, Spinoza, Nietzsche, etc., parle du Christ. Voilà peut-être pour poursuivre sur cette soirée que nous avons eue. Merci à vous tous de votre participation.